Well, par la grâce de Dieu, nous voulons terminer notre étude sur Genèse 1, le premier 11 chapitres de ce livre Genèse. Vous avez tous acheté maintenant le commentaire de Dr. Bailey. Donc, vous pouvez étudier non seulement la partie que nous sommes en train d'enseigner maintenant, mais vous avez un commentaire sur tout le livre de Genèse que vous pouvez lire, étudier après, selon votre programme. Nous voulons commencer le chapitre 7, en sécurité dans l'arche. En sécurité dans l'arche. Nous avons considéré l'arche, les dimensions de l'arche, les vérités spirituelles qui sont associées avec ces dimensions données par Dieu. Et nous avons considéré aussi la foi et l'obéissance de Noé. La foi et l'obéissance de Noé. Et Dieu voulait augmenter notre foi. OK? Et quand nous considérons ces choses au commencement, choses très disputées, donc nous devons avoir une foi. Nous devons avoir une foi. De y croire et aussi de marcher dans les choses que Dieu nous a montrées aussi. Donc, Genèse chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc, la vérité ici est que les justes sont préservés. Les justes sont préservés. On a déjà vu la façon d'être jugé juste, d'ouvrir dans ta vie la justice. Et nous voulons être justes comme Noé a été juste. Et nous voyons, il est préservé de jugement, de déluge à cause de sa justice. Les justes sont préservés. Genèse chapitre 7, verset 2 à 3. Genèse 7, verset 2 à 3. Tu prendras auprès de toi sept couples de tous les animaux purs, le mâle et sa femelle. Une paire des animaux qui ne sont pas purs, le mâle et sa femelle. Sept couples aussi des oiseaux du ciel, mâle et femelle, afin de conserver les races en vie sur la face de toute la terre. Et nous avons déjà vu que Noé, il n'a pas une place pour les poissons et les autres choses dans l'arche. Parce que pour eux, l'eau, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Donc, ils seront préservés. Mais nous voyons que Dieu avait prévenu tout. Donc, même pour les animaux, pour chaque espèce, il avait prévenu une arche qui puisse les conserver. Et donc, il a préparé tout pour cela, afin que sa création puisse continuer de l'autre côté de ce jugement qu'il est en train d'amener. Noé a pris de tous les oiseaux, animaux et insectes, et les avait placés dans l'arche. Sept couples des animaux purs, deux couples des animaux impurs, et sept couples des oiseaux aussi. C'était une œuvre de Dieu, seulement l'Esprit de Dieu peut faire cela. Donc, il ne peut pas chercher tous les animaux, les amener comme ça à l'arche. C'est l'Esprit de Dieu qui les avait amenés jusqu'au Noé. Jusqu'au Noé. C'est comme ça. Il ne peut pas humainement aller chercher tous les animaux comme ça. Partout dans le monde. Les purs et les impurs. Les purs et les impurs. Donc on peut dire, mais pourquoi Dieu il avait épargné les animaux impurs? S'ils sont impurs. Et même ça, c'est même avant que Moïse a eu la loi où les choses sont déclarées impures. Ça, c'est même avant cela. Mais c'est certain, nous voyons que l'homme avait une idée quels sont les animaux purs et impurs, même à cette époque. Noé, il connaît les animaux purs et les animaux impurs. Mais nous avons les animaux purs et impurs pour nous enseigner les vérités spirituelles qui sont associées avec eux. Nous devons savoir les sentiers, la sainteté Et nous voyons les vérités qui sont associées avec ces animaux purs et impurs qui puissent nous aider de marcher dans la voie de la sainteté. Il y a une différence entre les saints et les méchants, les profanes. Il y a une différence que nous devons savoir pour nous. Et nous voyons cela avec les animaux, comme Dieu les a classés. Nous enseigner les vérités spirituelles. Ézéchiel chapitre 44, verset 23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer ce qui est saint de ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. C'est nécessaire pour nous d'avoir ce discernement. Nous devons avoir ce discernement. Nous ne pouvons pas être confondus au sujet des choses qui sont saintes et qui ne sont pas saintes, qui sont impures, ou bien méchants, ou bien profanes. Donc nous devons avoir un sens, un discernement qui est bien préparé, éduqué par le Seigneur afin que nous puissions voir ces choses. On va continuer jusqu'au verset 4 à 5, Genèse 7, 4 à 5. Car encore 7 jours et je ferai pleuvoir sur la terre, 40 jours et 40 nuits. Et j'exterminerai de la face de la terre tous les êtres que j'ai faits. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Donc c'est important. C'est dangereux. Si Noé n'avait pas fait exactement les choses comme Dieu les avait données, donc il peut mourir. Donc s'il n'a pas bien construit l'arche, et à un moment donné, l'arche maintenant, donc c'est troué, ou bien il y a un problème, et l'eau commence à rentrer dans l'arche. C'est dangereux, n'est-ce pas? C'est très dangereux. Donc il avait fait tout ce que le Seigneur avait ordonné. Et pour nous aussi, quand le Seigneur nous a commandé quelque chose, nous voulons faire tout, selon ses ordonnances, selon ce qu'il avait commandé. Et c'est ça qui va nous assurer dans le sens que Dieu a placé devant nous. Il y a le chiffre 7, qui signifie les 7000 ans de l'homme sur la terre, il dit dans 7 jours, et on a déjà étudié cela, donc la semaine passée, la signification de 7 et les 7000 ans de l'homme sur la terre. Vous vous rappelez de cela, n'est-ce pas? Et c'est dans votre livre aussi. Et vous pouvez noter Apocalypse 21, verset 1. Apocalypse 21, verset 1. On va continuer. Genèse chapitre 7, verset 6. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Et nous voyons en Apocalypse, chapitre 13, verset 18, 6 est le nombre d'hommes. 6 est le nombre d'hommes. Apocalypse 13, 18, c'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Donc nous ne disons pas que Noé est la bête, mais donc nous disons que ça signifie l'homme. Ça signifie l'homme ou bien l'humanité. L'homme ou bien l'humanité. Et Noé avait 600 ans quand le déluge a commencé. Et n'oubliez pas que Methuselah était mort l'année que le déluge a commencé. À sa mort, les eaux couleront. Ok, on va bonder un peu. Jusqu'au verset 12. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits. Imaginez-vous une pluie comme ça, qui ne cesse pas pendant 40 jours. Imaginez-vous une grande pluie que nous avons dans le mois d'août. Très fort. Et au lieu de 1 ou bien 2 heures, 40 jours et 40 nuits. On peut imaginer, il y aura beaucoup de l'eau, n'est-ce pas? Oui, oui. Mais aussi, nous avons le chiffre ici, 40. 40. Et kéros est synonyme des épreuves, ou bien d'être mis à l'épreuve. On a parlé de cela que Dieu nous a fait pour être quoi?
Éprouvé.
Voici votre profession. Nous sommes les éprouvés professionnels. OK? Les éprouvés professionnels. Et nous voyons avec le périple des enfants d'Israël, ce que vous allez étudier avec Pasteur Justin. Il a fait combien d'années dans le désert? 40. Et ça, c'est une preuve pour eux. Moïse lui-même, quand il avait pris la fuite, il avait quitté l'Égypte, il a fait combien d'années dans le désert? 40, avant de retourner en Égypte. Le mont Sinaï. Donc quand Moïse est monté sur la montagne, il a fait combien de jours en eau? 40 aussi. Et la tentation de Jésus dans le désert, que nous voyons en Luc, c'est combien de jours? 40. Voici 40 est synonyme avec les épreuves dans la parole de Dieu. Souvent, c'est comme ça. Souvent, c'est la vérité associée avec cela. Donc, Genèse chapitre 7, versets 15 à 16. Ils entrèrent dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, de toute chair ayant souffle de vie. Il en entra, mâle et femelle, de toute chair, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Donc, ça c'est significant. Qui a fermé la porte? Dieu. Dieu a fermé la porte. C'est-à-dire, toute cette épreuve, toutes ces choses sont sous le contrôle de Dieu. Sous le contrôle de Dieu. Il avait commandé tout. Noé a fait sa part. Le reste, c'est Dieu. Le reste, c'est Dieu. C'est Dieu qui avait amené les animaux. C'est Dieu qui avait contrôlé les périodes de pluie. Quand la pluie va commencer, 120 ans, préparation, toutes ces choses que nous venons de voir, c'est Dieu qui avait géré tout cela. Et dans notre vie, nous pouvons avoir la foi. Amen. Que Dieu, il est au volant. Il prend le contrôle de tout. Donc souvent, nous disons, Seigneur, ça, ce n'est pas possible, c'est moi. Seigneur, ça, ce n'est pas possible. Mais oui, c'est impossible parce que c'est toi. Mais maintenant, si nous mettons notre confiance en Dieu et laisse-lui faire son travail, maintenant c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Et c'est ça que nous voyons avec Noé. Il a fait ce que Dieu veut. Et même Dieu a fermé la porte. Cet jugement est complètement contrôlé par le Seigneur. Et donc le fait que Noé et sa famille et tous ses animaux seront épargnés à travers ou bien pendant cette épreuve et sous le contrôle de Dieu. C'est Dieu qui contrôle tout. Il faut considérer la parabole des 10 vierges en Matthieu chapitre 25 verset 1 à 13, n'est-ce pas? La porte est fermée. 5 est entré. Et 5 ne peut pas entrer parce qu'ils ne sont pas prêts. Que nous soyons toujours prêts.
Amen.
Amen. Toujours prêts. Parce que quand Dieu ferme la porte, qui peut l'ouvrir encore? Si ce n'est pas Dieu. Amen. Dieu a fermé la porte. Il a fermé la porte. Le déluge. Le déluge. Nous voulons voir maintenant le vrai déluge. Un déluge que le monde n'a jamais vu depuis. C'est catastrophique. Genèse 7, verset 17 à 24. Le déluge fut 40 jours sur la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle se leva au-dessus de la terre. Les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sur la terre, et l'arche flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes montagnes qui sont sur le ciel entiers furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun refuge. Même le plus haut terrain, les plus hautes montagnes avait 15 coups d'élo qui couvrent cela. Verset 21. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux. Tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Verset 24, les eaux furent grosses sur la terre pendant 150 jours. 150 jours. Encore, c'est une inondation catastrophique. Catastrophique. Vraiment, le monde n'a jamais vu une inondation comme cela. Et nous voyons que la pluie est tombée dans l'eau. Mais Dieu a aussi fait que les fontaines et rivières souterraines ont jailli aussi. Nous voyons cela en Genèse chapitre 7, Genèse 7, 11. C'est-à-dire l'eau qui est en bas, les rivières qui sont souterraines, l'eau qui se trouve, que nous ne voyons pas qui est dans la terre, ça, la terre est craquée, cassée, et l'eau qui est en bas est montée aussi, et ajoutée à l'inondation qui tombe dans l'eau. Et il n'y a pas de refuge pour un être vivant. Toute chair périt sauf que Noé et sa famille, et ceux qui sont avec lui, dans l'arche. C'est sûrement eux qui sont vivantes à travers de ce jugement. C'est un vrai jugement. Qui peut nager ici? Qui peut nager ici? Est-ce que vous pouvez nager pendant 150 jours? Aïe, ce n'est pas possible. Donc c'est un vrai jugement. C'est un vrai jugement. Et ça, c'est la nature de cette déluge. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Et le monde dit, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Vous croyez sur cela? Ça, c'est une folie. Mais nous croyons, n'est-ce pas? Oui. Car nous avons quoi? La foi. Que Dieu a fait ce qu'il a dit. OK. Le retrait des eaux. Le retrait des eaux. La retraite des eaux. Genèse chapitre 8, verset 1. Genèse 8, verset 1 à 3. Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient de Noé. Est-ce que vous pensez qu'il avait oublié Noé? Non. Mais ici, il dit, Dieu se souvient de Noé. De tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer une vent sur la terre, et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne tomba plus du ciel. Verset 3, les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Dieu se souvient de Noé. Dieu se souvient de Noé. Quand Dieu se souvient de nous, quelle grâce. Quelle grâce. Il nous a sauvés. Quelle grâce. Il se souvient de nous. Les eaux ont cessé et le vent avait commencé à souffler. Et il y a l'évaporation qui a commencé. Et les eaux sont diminuées pendant 150 jours. Les eaux avaient diminué pendant 150 jours. OK. OK. Le septième mois, le 17e jour de mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Verset 5. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au 10e mois. Le 10e mois, le premier jour de mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait fait à l'arche. Le septième mois, c'est le septième mois que les montagnes vont se voir encore, Et c'est le même mois que la fête des tabernacles. Ça, c'est significant. Encore, vous allez étudier avec Pasteur Justin pour le périple d'Israël, les fêtes d'Israël, les fêtes d'Israël. Et vous allez voir la signification de ce fête de tabernacle, la fête de tabernacle. Et c'est vraiment Dieu qui contrôle les époques et les temps. Et nous voyons qu'il avait donné cette délivrance de ses eaux à commencer pendant le mois de fête des tabernacles. Les fêtes des tabernacles, ça symbolise le repos et la bénédiction. Le repos et la bénédiction. Le repos et la bénédiction. Moi, je n'ai pas visité Israël, mais ma sœur, elle avait visité Israël il y a des années maintenant, et elle a visité pendant le temps des fêtes des tabernacles. Et elle a dit, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et aussi, Pasteur Tucker, le président de Zion, Zion Fellowship, donc il avait parlé avec quelqu'un d'Israël, et ils ont dit, il faut venir visiter en Israël. Et il dit, quel est le meilleur temps à venir? Ils ont dit, le temps des fêtes des tabernacles. C'est le meilleur temps de visiter. Donc, voilà. Mont Arara veut dire terre sainte. Terre sainte. Et c'est là où l'arche est arrêtée. C'était arrêté sur le mont Arara. C'est toujours dans l'approche de la croissance mésopotamienne où l'homme commença encore. La croissance mésopotamienne. Ok. On va continuer la sortie de l'arche. Genèse chapitre 8, verset 13. L'an 601, le premier mois, le premier jour de mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche. Il regarda et voici la surface de la terre avait séché. Verset 14, le second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. On va continuer jusqu'au verset 19. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche. Encore Dieu a fermé l'arche. Il a fermé la porte. Et ils ont resté dans l'arche jusqu'au Dieu les avait commandé de sortir. Ils n'ont pas pensé eux-mêmes, ok, on peut y aller. Donc, il avait entendre la voix de Dieu, jusqu'au Dieu avait parlé. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et tes femmes, et des fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant l'oiseau que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qui se répandent sur la terre, qui soient fécondes et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Verset 19, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se mue sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Donc Dieu, il avait prévenu toutes choses. C'est lui qui avait commandé et toutes choses est descendues au même temps. Noé, jusqu'aux les insectes, avait sorti de l'arche au même temps. En même temps. Ils sont dans l'arche pendant une année. Pendant une année. Donc, il a fait 5 mois à flot et 7 mois sur les montagnes. 5 mois à flot et 7 mois sur les montagnes. Quand l'eau est en train de diminuer et de s'affir. Et c'était une circonstance difficile pour eux. Restreint. Ils sont dans l'arche. Ils ne peuvent pas bouger beaucoup. Ils ne peuvent pas aller loin. Avec tous ces animaux, ces insectes, ces oiseaux, on peut imaginer qu'après quelques mois, ça devient un peu difficile, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de travail. Il faut nourrir, parce qu'il y a la nourriture pour tous ces animaux aussi. Il faut les nourrir. C'est une circonstance difficile, étroite. Mais ça nous parle aussi des circonstances dans nos vies. Des fois, nous avons les circonstances difficiles. Serrées, étroites. Serrées, étroites. On peut pas beaucoup bouger, on peut pas beaucoup dire. Nous devons seulement prier, crier à Dieu, Seigneur, aide-moi ici. Aide-moi ici. Mais ça peut être un temps très fructueux. Si nous cherchons la face de Dieu, laisse-lui nous parler. Donc, ça peut être un temps très fructueux. Donc, je réfère toujours à ces instants à Dr. Bailey. Au temps qu'il est avec sa femme, pendant 4 ans, elle est très malade, elle est paralysée, et c'est lui qui fait le soin d'elle. Lui, tout seul, avait soigné sa femme. Et puis, aussi, c'est le temps qu'il avait commencé à écrire. Parce qu'avant, ils ont beaucoup voyagé pour donner les séminaires partout dans le monde, lui et sa femme. Donc, ils sont toujours en voyage pour enseigner dans les églises, les écoles bibliques, les séminaires pour les dirigeants chrétiens. Et donc, maintenant, tout est arrêté à cause de sa maladie, la maladie de Sir Bailey. Et donc, maintenant, il prend soin de sa femme, il ne voyage plus, mais il a commencé à écrire. Et donc, les livres que vous avez de Dr. Bailey, c'est le fruit de cette période restreinte, étroit. Il ne peut plus bouger, mais Dieu lui a montré quelque chose qu'il peut faire dans cette situation. Et c'est ça que vous avez maintenant. Donc, les livres que vous tenez dans votre main est sorti d'un temps de... C'est un temps de difficile. C'est un temps difficile pour Sir Bailey et pour Pastor Bailey aussi. Mais nous voyons que c'est un temps très fructueux. Et donc, nous ne voulons pas dire, « Oh Seigneur, c'est terrible, c'est une épreuve, c'est trop restreint. Qu'est-ce que je peux faire ?» On peut être très fructueux aussi si nous cherchons la face de Dieu et faisons ce qu'il nous montre. Amina ? Amen. Amen. OK. On va continuer et voir maintenant l'hôtel de Noé. L'hôtel de Noé. Genèse 8, 20 à 22. Noé bâtit un hôtel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Donc, on voit maintenant pourquoi il doit avoir plusieurs. Parce qu'il a fait un sacrifice avec eux immédiatement. Et il offrit des holocaustes sur l'hôtel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit en son cœur, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. » Ne cesseront point. Donc, Dieu était satisfait des holocaustes que Noé a fait. Et puis, sa vie, la vie de Noé aussi, la vie de Noé lui plut. Et nous voulons aussi que notre vie soit agréable au Seigneur et que nous faisons les sacrifices qu'il veut. Encore, vous voyez, Noé, il connaît le sacrifice. Il connaît comment adorer le Seigneur. Nous voyons la façon qu'il... Ça, c'est depuis Adam. C'est depuis Adam. Dieu les a montré ce qu'il veut. Et maintenant, c'est une question de la faire. Tous ces sacrifices qui ont commencé avec Adam avaient continué tout au long de l'Ancien Testament. Maintenant, c'est Jésus qui avait accompli tout. C'est lui le grand sacrifice. Ce n'est plus la peine de faire un sacrifice comme ça. Maintenant, nous sommes le sacrifice. Le sacrifice vivant. Mais le sacrifice continue quand même. Amina?
Amen.
Ça continue. Donc, nous voyons ces choses qui avaient commencé. Donc, en Genèse, il continue jusqu'au Apocalypse et au-delà. L'hôtel de Noé. L'hôtel de Noé. Donc, la vraie adoration demande les sacrifices. La vraie adoration demande les sacrifices. Dieu avait déclaré, ici en Genèse 8, ces versets que nous venons de voir, « Je ne maudirai plus la terre. » Mais ça n'annule pas la malédiction, ok? La malédiction est là. La malédiction s'impose à tout moment. Ce que Dieu a déclaré dans le jardin avec Adam et Ève, le serpent, la terre, tout, ça ne cesse pas. Ça doit continuer. Ça, c'est pour notre bien-être. Si ça cesse, nous pouvons avoir les grands problèmes. Donc, Dieu, dans sa sagesse, il avait imposé cette malédiction. Mais ici, il parle de ce qu'il avait conçu de maudire, de juger la terre avec l'inondation à cause de ce que l'homme a fait. Donc, nous méritons le jugement. Et Dieu a jugé. Ça, c'est juste. Dieu n'est pas injuste. Il est juste. Mais donc, il dit, je ne fais pas un autre jugement comme cela sur la terre avec les inondations. Il avait arrêté cela quand il a vu le sacrifice de Noé et sa vie d'obéissance. Donc, il y a les promesses que Dieu avait données. Donc, Dieu a vu que l'homme était né avec une tendance au mal. Et donc, nous avons besoin de la présence de Dieu dans notre vie afin de dévier de cette tendance de mal. Mais après l'adoration de Noé, Dieu a répondu par les promesses suivantes. Les promesses. Il ne maudirait plus la terre à cause de l'homme. Mais ça n'annule pas la malédiction. Ok? Deuxième. Il ne frapperait plus les êtres vivants. Et troisième. Les saisons continueront. Il ne maudirait plus la terre à cause de l'homme. Il ne frapperait plus les êtres vivants. Les saisons continueront. Ok, nous devons continuer. Les saisons continueront et nous allons continuer aussi. Car, les bénédictions de Dieu. Tout le monde est prêt pour les bénédictions maintenant. On a subi un grand jugement. Nous sommes tous mouillés. Et puis, nous avons besoin d'une bénédiction maintenant. Genèse chapitre 9, verset 1 à 2. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez fécondes, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se mue sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Et maintenant, nous voyons ce qu'on a vu en Genèse 1. Donc, Dieu avait répété à Noé le même commandement qu'il a donné à Adam et à Ève. Le même commandement, le même usage des mots en hébreu. Soyez fécondes, multipliez et remplissez. Soyez fécondes, multipliez et remplissez, ça veut dire remplir de nouveau la terre. La terre est bien populée avant l'inondation, avant le déluge, n'est-ce pas? La terre avait une grande population avant l'inondation, avant le déluge. Et maintenant, toute vie est exterminée et Dieu commande Noé et ses fils maintenant de remplir de nouveau la terre qui a été remplie avant. Remplir de nouveau. Il a donné l'homme à la domination sur la terre. Genèse chapitre 9, verset 3 à 4. Tout ce qui se mue et qui a vie vous servira de nourriture. La viande. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Voilà, Dieu a commandé, il a changé un peu les lois diététiques ici. La loi diététique, ce que l'homme peut manger. Et l'homme peut manger la viande, mais il ne peut pas manger quoi? Le sang. Il ne peut pas manger le sang. Et Dieu a continué cela dans le Nouveau Testament aussi pour l'Église. Pour nous, aujourd'hui, c'est toujours en vigueur. Nous voyons cela en Actes, chapitre 15. Versets 19 à 20, pour l'Église, on ne peut pas manger le sang. On ne peut pas manger les choses qui sont étranglées. Donc depuis longtemps, Dieu avait gardé cela, même jusqu'à nos jours. Car la vie est dans le sang. Genèse 9, 5 à 7. Genèse 9, 5 à 7. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, et je redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez fécondes et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Donc ici, nous voyons la loi relative au meurtre. Voici la peine de mort pour meurtre. Que nous voyons verset 6. Et aussi en Nombre, chapitre 35, nous avons aussi cette loi donnée là-bas aussi. La peine de mort pour le meurtre. C'est une loi très disputée aujourd'hui. Très disputée. Ok, nous allons continuer. Elle, la preuve de l'alliance Dieu a fait avec Noé. La preuve de l'alliance Dieu a fait avec Noé. À partir de verset 9-8 jusqu'au verset 10. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. » Verset 11 à 17, « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans le nu. » Et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuit. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Verset 16, l'arc sera dans la nuit. Et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé, tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Donc c'est l'arc-en-ciel. C'est l'arc-en-ciel que Dieu avait donné. Et imaginez-vous, Dieu a déclaré que chaque fois il y a un arc en ciel, lui, il se souvienne de cette alliance qu'il avait établie, non seulement avec nous, mais avec toute chair. Même les tout petits insectes, il avait établi une alliance avec eux. De les plus détruire, les plus juger par les inondations. Les grandes inondations comme il a fait. Et donc, c'est ça le travail de l'arc-en-ciel. Et c'est joli à voir. Donc, tout le monde a vu un arc-en-ciel, je crois, n'est-ce pas? Tout le monde a vu. Des fois, ils sont doubles. Mais l'arc-en-ciel a sept couleurs. Sept couleurs. Voici les couleurs. Rouge, orange, jaune, vert bleu, indigo et violette. OK, vert et bleu. Les sept couleurs que nous voyons dans l'arc-en-ciel. Et encore, nous avons dit, dans la parole de Dieu, il y a souvent les chiffres sept qui sont mentionnés, qui sont importants. Il y a les sept esprits du Seigneur que nous voyons en Isaïe 11, 2. Et nous voyons un arc-en-ciel derrière ou bien avec le trône de Dieu au ciel. Voici un arc-en-ciel. C'est un arc-en-ciel Ma femme et moi, nous avons fait cette photo quand nous sommes en Écosse, en 2014. Donc, nous sommes en train de conduire. Donc, nous sommes en train d'aller là-bas. Et tout de suite, on a eu une petite pluie, mais il y a toujours le soleil. Et voilà, l'arc-en-ciel est apparu. Et donc, ma femme a fait cette photo vite, avant que ça ait disparu. Mais Dieu, il a vu cela, il dit, je me souviens de mon alliance. Je ne détruirai plus la terre avec des eaux. Mais nous voulons regarder quelque chose. Quand nous disons, ah Dieu merci, il n'inonde plus la terre comme ça, il y a d'autres choses qui nous attendent. 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7. 2 Pierre, chapitre 3, versets 5 à 7. Pierre a déclaré, « Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périr, submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour de jugement et de la ruine des hommes impies. » C'est-à-dire, la prochaine fois que Dieu va juger toute la terre, donc c'est avec le feu. Et il va tout changer. Il va tout changer. Ça, c'est après le millénium. Mais le fait que Dieu a jugé la terre par le déluge est la preuve que sa parole est vraie. C'est ça que Pierre a dit. Frères et sœurs, ayez la foi. Amina, amen. Ce que Dieu a dit, donc c'est vrai, c'est véritable. Il l'a fait. Et donc il fera aussi ce qu'il a déclaré. Ce qui est prophétisé, nous devons voir l'accomplissement de toutes ces choses. Dieu détruira la terre par le feu après le millénium. Aussi, la lignée physique de Caïn a été détruite par le déluge. Mais la lignée des méchantes continue spirituellement dans le cœur des hommes jusqu'à aujourd'hui. Et ça commence tout de suite juste après le déluge. La lignée de mal. C'est-à-dire, ce n'est plus une lignée physiquement connectée à Caïn. Ça s'est terminé avec le déluge, le jugement que Dieu avait amené. Mais donc, le même esprit qui avait poussé Caïn dans la rébellion et la désobéissance, ça continue toujours. Et c'est ça pour le déluge. Est-ce que Dieu va juger encore la terre avec une déluge? Oui ou non? OK. Qu'est-ce qu'il va utiliser la prochaine fois pour sa jugement? Le feu, voilà. Que Dieu nous aide. Amen. OK. Maintenant, nous devons continuer. Parce que, OK, le déluge est fini. Donc, la terre est sec maintenant. Tout le monde est sorti de l'arche. C'est une fête accomplie. Et nous devons continuer maintenant. Les fils de Noé, Sem, Cam, et Japhet. Sem, Cam et Japhet. Et nous devons les considérer maintenant. Genèse 9, versets 18 à 27. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cam et Japhet. Cam fut le père de Canaan. Verset 19. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le reporta dehors à ses deux frères. Verset 23. Alors Sem et Japhet prirent le manteau le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, « Maudit soit Canaan, qu'il soit esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Verset 27, « Que Dieu en étende de moins les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. » Donc, nous voyons ici la honte de Cam. Nous voyons ici la honte de Cam. La honte de Cam. C'est une vraie histoire. C'est quelque chose qui s'est déroulé. D'abord, on doit dire qu'il n'y a pas de faute avec Noé ici. Et tout le monde peut dire, hey, mais il a bu, il a trop bu, il est enivré, voilà. Mais Dieu n'a pas réprimé Noé. Il n'a pas trouvé faute avec Noé. Il n'a pas commencé avec Noé. Il n'a pas maudit Noé. Nous ne savions pas pourquoi ou bien comment Noé est arrivé dans un tel état. On a dit que le monde a changé après le déluge. Que le monde a changé après le déluge. On a déjà vu la différence entre le monde avant le déluge qu'après. Et il est supposé que peut-être la fermentation, c'est quelque chose qui est nouveau ou bien qui avait changé de l'autre côté de l'inondation. Et peut-être, donc, ce qui est seulement un jus avant l'inondation est devenu le vin alcoolisé après le déluge. On ne sait pas. Ce qu'on sait, Dieu, il n'a pas trouvé une faute chez Noé. Et ça nous dit beaucoup de choses. Parce que Dieu, il est juste. Il ne fait pas les erreurs. Il est toujours juste. Il est toujours juste. De fois, nous disons, « Ah, Seigneur, ça, ce n'est pas juste. » Mais il est juste. À notre vue, à notre point de vue, on peut dire, « Non, ça, ce n'est pas bon. Dieu, il a mal fait ici. » Dieu n'a jamais mal fait. Donc, il a fait les choses. Nous ne voyons pas le fond. Nous ne voyons pas les choses autour. Nous ne voyons pas les choses en arrière-plan. Nous ne voyons pas toutes ces choses. Dieu y voit tout. Et maintenant, il donne son jugement. Dieu a béni Sem et Japheth pour leur attitude dans cette affaire. Nous voyons ce qu'il avait fait. Il avait beaucoup de respect pour leur père. Il connaît comment Dieu voit la nudité. Comment Dieu voit la nudité. Et avec la crainte de l'Éternel, il avait agi de sorte qu'il avait couvrir leur père sans lui regarder. Sans lui regarder. Dans leur cœur, ils ne voulaient pas jeter la honte sur leur père. Cam a été maudit. Et la malédiction est tombée sur le fils de Cam, Canaan. Et tout le monde dit, mais pourquoi c'est le fils qui doit souffrir au lieu de son père? Pourquoi? Pourquoi? La malédiction a tombé sur Canaan. Et encore, nous devons toujours dire, Dieu est juste. Dieu, il est juste. Il est juste, il n'est pas injuste. Ce qu'on peut dire, il a vu dans la vie de Canaan les tendances pour lesquelles il eut jugé. C'est-à-dire la même chose qui est dans son père est dans lui. C'est dans lui. Et il mérite d'être maudit. Dieu ne maudit pas quelque chose qui ne mérite pas d'être maudit. C'est tout. Donc, selon notre point de vue, on peut trouver beaucoup de fautes, mais notre point de vue est très limité. Dieu, il regarde tout, il pense même hors temps. Il pense dans l'éternité. Il voit tout. Il voit tout. Et c'est ce qu'il avait déterminé dans ce cas. C'est-à-dire, Canaan, comme son père, a déjà commencé à marcher dans les voies des méchants. Voilà. La voie de Caïn. Voilà. C'est déjà sur la route, ici. Juste de l'autre côté de cet jugement, nous voyons, ça commence. Tout de suite, ça commence. Et par le jugement que Dieu a donné, Canaan devait être esclave des esclaves. Et les descendants de Cam sont maudits aussi. C'est-à-dire toute sa lignée est maudite. Et nous voyons que les descendants de Cam sont les ennemis habituels d'Israël dans la Bible et jusqu'à aujourd'hui. Donc les descendants de Cam sont les ennemis habituels d'Israël. Les descendants de Cam sont les ennemis habituels d'Israël dans la Bible et même aujourd'hui. Même aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau. Ça continue. Ça continue. Donc Genèse 9, 28 à 29. Noé vécut après le déluge 350 ans. Ça c'est après le déluge. Ok? 350 ans. Et tous les jours de Noé furent de 950 ans. Puis il mourut. Ok? Donc c'est bien évident, il a vécu 950 ans. Comme il est né avant le déluge, il a vécu 350 ans après le déluge, c'est-à-dire 10 générations. 10 générations après le déluge. Il a vu sa descendance se détourner de Dieu. Il a vu le tour et la ville de Babel. Il a vu les nations dispersées. Il a vu toutes ces choses. C'est-à-dire, toutes ces choses sont déroulées avec la présence de Noé au milieu de eux. Et ses fils, qui peuvent bien témoigner de leur vie avant l'inondation et le jugement que Dieu a donné, et ils sont de l'autre côté. Et maintenant, il a vu les choses, ils sont en train de commencer encore. Et Noé est là. Il dit, ça, ce n'est pas bon. Moi, j'ai déclaré avant le déluge, je vous déclare maintenant. Si vous continuez comme ça, Dieu va vous juger. Et ils n'ont pas écouté Noé. L'année du déluge est 1656 ans après la création. 600e année de Noé. Donc c'est ça. 1650 ans après la création, l'année du déluge, dans la 600e année de Noé. Nous allons prendre une pause et après nous allons revenir et terminer avec la dispersion des nations. Les dispersions des nations. Que le Seigneur vous bénisse.